m'appelle Khadija.
Et Calice.
Vous écoutez Radio Campus. Nous sommes actuellement à l'AFPA de Tours-Nord au sein de la promo 16-18. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Alexandre.
Bonjour.
Tout d'abord, nos auditeurs ont envie de savoir comment avez-vous entendu parler de ce dispositif ?
J'ai été conseillé par ma conseillère à la mission locale qui m'a donné certaines informations par rapport à l'AFPA et plus particulièrement sur la promo 16-18.
Et qu'est-ce que tu comptes faire après ce dispositif ?
L'année prochaine, je rentre en CFA. Je sais dans quel domaine. Voilà.
Dans lequel ?
Dans la vente, prêt-à-porter.
Est-ce que la promo, elle a été bénéfique pour toi ?
Oui.
Et dans quoi ?
Pour l'amélioration de mon CV, ma lettre de motivation, pour ma prestation avec des patrons, comment me présenter en entretien pour déposer un CV.
Si là, quelqu'un, il venait te voir et te demandait d'expliquer la promo, tu lui dirais quoi pour lui expliquer ? Comment ça se passe à la promo 16-18 ?
Alors, t'as 13 semaines, donc 3 mois, une semaine d'engagement, 2 semaines d'initiation, phase de construction, 8 semaines, et après il reste 2 semaines. Donc, tu viens à l'heure. Tu peux venir même sans projet, avec certaines formations qui vont te présenter, tu vas trouver ta voie.
D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Ainsi s'achève cette interview. Merci de nous avoir écoutés. C'était Khadija
et Calice.
À très bientôt sur Radio Campus.
Bon, Alina, depuis combien de temps tu es à la promo 16-18 ?
Ça fait 4 semaines. Ça dure 13 semaines.
13 semaines. Il me semble que c'est un engagement. Vous signez un contrat quand vous rentrez ici. C'est engageant, je crois, non ?
Ouais.
Donc ça veut dire qu'on est, on a une obligation d'être à l'heure, d'être ponctuel et de venir aux ateliers qui sont proposés.
Oui.
Ouais. Toi, tu es orienté vers la promo 16-18. Comment ça s'est passé en fait ? Comment ça t'est tombé dessus ?
Ben, en fait, j'ai arrêté l'école.
Donc tu as arrêté l'école, tu étais au lycée, il me semble ?
Oui.
Filière qui ne te plaisait pas ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc tu voulais te réorienter ?
Ouais, et du coup je me suis inscrite à la mission locale et la mission locale elle m'a proposé l'AFPA. Puis voilà.
Tout de suite t'as accepté ou t'étais quand même un peu dans l'attente d'autre chose, enfin perdu, parce que quand on arrête le lycée, qu'on est mineur, qu'on n'est pas encore sur le marché du travail, ça peut peut-être générer un peu d'angoisse. Est-ce que toi, quand on t'a proposé l'AFPA ici, tout de suite t'as dit oui ?
Ouais, j'ai dit oui.
Et là, depuis les quelques semaines maintenant que tu es là, on travaille quoi, le projet professionnel, changement de voie d'orientation scolaire, c'est quoi les premières pistes, les premières touches que tu as, toi ?
On travaille le projet pro.
On va peut-être profiter justement d'être à la radio aussi pour parler un peu de tes ambitions scolaires et professionnelles. Toi, dans l'idéal, ce que tu cherches, ça serait plutôt d'aller vers quelle filière, en fait ?
Vente. Le prêt-à-porter.
Donc c'est plutôt là-dedans que tu es en train de faire des recherches.
Ouais, voilà.
Et on va peut-être rappeler que la promo 16-18, c'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 18 ans déscolarisés, qui ont eu n'importe quel type de galère. En tout cas, personne vous juge ici, en tout cas. Vous êtes accueillis à bras ouverts.
Ouais,
et c'est vous ça. Ça vous permet de vous remettre au niveau, de découvrir de nouveaux métiers.
Ouais.
Et puis dire à celles et ceux qui écoutent et qui seraient dans la même situation que l'AFPA Tours-Nord propose ce type de formation.
Ouais.
Eh ben merci à toi, Lina.
Bonjour, je m'appelle Jade. Vous écoutez Radio Campus Tours. Nous sommes à Tours-Nord avec mes trois collègues. Aujourd'hui, je vais vous parler de Netflix. C'est un service de streaming sur abonnement. Netflix permet de regarder des séries et des films sur un appareil connecté à Internet. Maintenant, je vais vous passer chez Razad.
C'est un service permettant de regarder des films et séries. Pour un écran, c'est 8,99€ par mois. Pour deux écrans, 13,49€ par mois. Les tarifs ont augmenté. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un abonnement Netflix.
Merci. Et maintenant, je vais vous passer Clara.
Donc, je vais vous présenter les genres, ce qu'il y a sur Netflix. Donc, il y a de l'action et des aventures, des dessins animés, des films pour enfants ou famille, des grands classiques du cinéma, des comédies, des films cultes, des documentaires et des drames, et encore plus.
Et enfin, Elisa.
Je vais vous présenter quelques séries produites et diffusées seulement par Netflix. Nous avons Narcos, Stranger Things, Another Life, Outer Banks. Et rappelons le fait que Netflix, comme d'autres applications ou jeux, peut parfois avoir un côté addictif, empêchant d'avoir une vie sociale avec nos proches. Alors priorisons d'autres activités, comme des activités culturelles ou bien sportives.
Ainsi s'achève notre chronique. Merci de nous avoir écoutés. C'était Jade, Sherazade, Elisa et Clara. À très bientôt sur Radio Campus Tour.
Moi, je voulais vous demander, est-ce que vous-même, vous êtes des abonnés utilisatrices de la plateforme Netflix ou d'autres types de plateformes de streaming en ligne ?
Oui. Oui.
Je voulais savoir aussi qui payait, c'est la question cruciale, c'est qui payait chez vous les abonnements et comment vous répartissiez les comptes ? Parce que vous savez que Netflix est en train de faire un peu la chasse aussi au doublon de comptes, les gens qui utilisent à plusieurs des comptes. Je voulais savoir s'il y en a chez vous qui vivaient ce genre de choses et comment ça se passait au niveau du paiement aussi des abonnements.
Moi, je sais que, exemple, j'ai un compte Netflix, mais c'est le compte d'une amie de ma sœur. Et du coup, j'ai juste à avoir les codes, l'identifiant, et c'est tout. Et après, je peux rentrer, mais en soi, c'est pas mes parents qui payent.
Moi, c'est ma mère qui paye, et il n'y a pas trop de personnes qui regardent Netflix dans ma famille. Du coup, il n'y a jamais un problème du fait que deux personnes regardent en même temps.
Et le choix d'avoir pris un abonnement Netflix, c'est vraiment par rapport parce que les offres de la plateforme étaient intéressantes ou c'est parce que vous trouviez qu'à la télé, ce qui était proposé, vous n'étiez pas satisfait ? Comment c'est
venu ? Oui, il y a plus de films et séries sur Netflix qui est plus intéressant.
Est-ce que vous avez été déjà confronté tout à l'heure, Elisa, tu parlais aussi des dangers de ce type de plateforme de streaming. Est-ce que vous-même, vous étiez concerné par ce genre de choses, le fait que des fois, on peut passer des soirées entières à scroller l'écran et à regarder les... Enfin, c'est plus de temps, en fait, sur l'écran d'accueil que regarder la série.
Oui. Une fois, je regardais... Enfin, pendant toute la journée, j'ai regardé Netflix. Genre 8, j'ai fait une série complète, quoi.
Moi, c'est vrai que je regarde Netflix, mais j'essaye de pas faire trop ça, d'être pas trop accro par rapport à ça.
Et comment on fait du coup pour pas être trop accro ? Comment on se limite soi-même ?
Je sais pas comment je fais, mais j'y arrive, donc je passe à autre chose, je fais de la cuisine ou autre, j'essaye de m'occuper autrement.
Et en termes de contenu aussi, parce que Netflix et d'autres plateformes sont déjà fait un peu taper sur les doigts des fois par rapport à l'accessibilité de certains contenus qui n'étaient pas adaptés à certains publics selon les catégories d'âge. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur un contenu, de dire « Oula, c'est peut-être pas adapté », alors pas que vous ayez été vous-même choqué, quoique ça a peut-être pu arriver, mais de vous dire que ça n'avait peut-être pas sa place là sur l'écran d'accueil de la série.
Après, c'est assez différent parce que, exemple, les parents, s'ils ont des enfants qui regardent Netflix, ils peuvent avoir une petite partie où c'est pour les jeunes, exemple, où là, il n'y a que des dessins animés. Donc ça évite qu'après, des jeunes puissent tomber sur des contenus, exemple, pour des gens de 17 ans, 18 ans ou plus.
Là, on a parlé des plateformes de streaming de séries. Il y a aussi les plateformes musicales. Est-ce que vous utilisez les plateformes musicales type Deezer, Spotify, SoundCloud, Bandcamp aussi pour la musique ?
Oui.
Et pareil, quel est l'intérêt que vous y trouvez, vous, les avantages par rapport à l'écoute, par exemple, de la radio ?
Il n'y a pas de pub.
Spotify, quand tu n'as pas d'abonnement, il y a des pubs.
comment ça se passe? Vous créez vos propres playlists ou vous laissez l'intelligence artificielle, l'algorithme de la plateforme choisir les musiques pour vous? Qu'est-ce que vous allez chercher sur ces plateformes que vous ne trouvez peut-être pas ailleurs?
Bah, moi, j'ai une playlist et il y a une playlist créée par le chanteur. Genre, il met tout, ses sons, bah, je clique directement sur le chanteur et puis voilà.
Bonjour, je m'appelle Lolita. Tout d'abord, savez-vous que l'équitation est un sport? Car premièrement, ça fait travailler le physique, dont les muscles et la posture du cavalier. Deuxièmement, ça fait partie des Jeux Olympiques. Bah, dans l'équitation, il y a plusieurs activités comme par exemple nettoyer les boxes, donner des cours bah, aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés.
Tina, l'équitation, c'est un sport, puisque donc c'est ça l'objet de ta chronique, c'est que c'est de nous faire bien comprendre que c'est pas un loisir, c'est une pratique sportive, c'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est un sport donc, que tu pratiques?
Oui.
Que tu pratiques depuis combien de temps?
11 ans.
Là, tu parlais de préparer le boxe, c'est qu'en fait, je crois que quand on démarre, on commence pas tout de suite avec un cheval, on commence avec poney, demi-poney, peut-être où je me trompe.
Avec un Shetland.
Donc c'est plus petit qu'un cheval, c'est ça?
Oui, c'est bah Georgia. En taille, il y a Falabella, Shetland, poney et chevaux.
Avant de monter, il y a en fait tout le travail de préparation et de relation avec l'animal, c'est ça?
C'est ça.
Donc ça consiste en quoi quand on arrive? En fait, c'est quoi la je m'inscris dans un club d'équitation. La première chose qu'on fait quand on arrive, c'est quoi à peu près dans l'ordre avant de monter sur la selle? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Bah, on doit aller chercher son poney, après bah, on le brosse, et après bah, on le selle, et bah, c'est parti.
Et une fois que c'est terminé, pareil, il y a tout le travail bah, de nouveau de le nettoyer, non? Comment ça se passe une fois qu'on a fini la séance?
Bah, on le rebrosse aussi, après on le ramène dans son pré ou à son box.
Il me semble aussi qu'il y a des choses à respecter. Je crois savoir que quand on brosse un cheval, en tout cas qu'on le prépare pour la séance d'équitation, il y a des choses à ne pas faire. J'ai déjà entendu dire qu'il ne fallait pas passer derrière lui, enfin, qu'il y avait des choses auxquelles il fallait faire attention. Il fallait aussi regarder la posture de ses oreilles, de sa queue.
Oui, il ne faut pas passer derrière lui si on ne le connaît pas bien. Il faut faire attention aux gestes brusques. Ben voilà, après, tout dépend du cheval, de ses réactions, etc.
La séance d'équitation, ça dépend aussi de fait, peut-être de la relation qu'on a avec le cheval. Enfin, j'imagine que si on prépare mal son cheval ou qu'on ne connaît pas et qu'on ne fait pas l'effort de bien le connaître, la séance d'équitation ne peut pas bien se passer.
Oui.
Donc en fait, c'est une mise en confiance.
Oui, c'est ça, c'est une mise en confiance avec le cheval et le cavalier.
Et quand tu dis que tu insistes sur c'est un sport, c'est parce que pour le cavalier aussi, il y a une dépense d'énergie. Enfin, c'est quelque chose dont on est fatigué.
Bah oui, c'est du sport, quoi.
Peut-être tu ne l'as pas dit par modestie, je ne sais pas, mais hors antenne, on a parlé de compétitions qui avaient lieu à la Motte Beuvron. Il me semble que c'est des compétitions qui sont déjà d'un niveau assez relevé auquel toi-même tu as participé, c'est ça?
Oui.
Il s'agit de quelle compétition?
Bah, c'est du saut d'obstacle. Et ça se passe sur 2 semaines, voire plus. Tout dépend de ce que nous, on fait pendant ces semaines-là.
Et c'est dans le cadre de championnat de France, je
oui,
crois.
Oui, c'est ça.
Donc, ça veut dire que, comme dans d'autres sports, il y a des divisions, il y a des classements, il y a des championnats, on gagne des prix. Comment ça se passe?
Bah, il y a plusieurs niveaux. Il y a, par exemple, club 2, club 1, etc. Ça signifie la hauteur des obstacles. Et de si on fait les championnats avec un poney ou un cheval. Par exemple, le P2, P3, P4, c'est pour les poneys. Et club 1, club 2, club 3, club 4, c'est pour les chevaux. Et ça dépend des foulées du cheval, etc.
Et quand on remporte une compétition, en fait, je voulais savoir qui est récompensé. Qui est-ce qu'on récompense? C'est le cavalier ou c'est le cheval? Ou est-ce que c'est les deux? Comment ça se passe au niveau des récompenses?
Bah, c'est le cavalier et ça peut être aussi... c'est donné au cavalier, mais aussi, par exemple, des friandises ou autres pour chevaux.
qui va faire la différence. Par exemple, est-ce qu'un mauvais cavalier, mais qui a une très bonne monture, peut remporter un championnat, ou vice-versa? Est-ce qu'un très bon cavalier avec une mauvaise monture peut remporter un championnat?
Non, parce qu'il y a des techniques, etc., à avoir que si tu les as pas, c'est mort, quoi.
Et donc, toi, tu as participé toi-même à ces championnats?
Oui.
Alors, on ne va pas demander précisément le détail de ton palmarès, mais j'imagine que si tu participes au championnat de France, c'est parce que déjà, tu es dans une certaine catégorie, tu as déjà un certain niveau.
Oui.
Et comment t'es venu à l'équitation? C'est un choix perso ou c'est dans l'environnement familial ou parce que tu as grandi à proximité d'un club?
C'est parce qu'en fait j'avais une maison de vacances et juste derrière elle avait un centre équestre et j'ai dit à mes parents que je voulais essayer et ça s'est super mal passé et au final j'ai remonté parce que j'avais envie de réessayer et depuis j'ai toujours accroché et...
Ouais, t'as persévéré et finalement la première expérience qui était négative elle s'est transformée en une expérience parce que jusqu'à l'heure au moment présent on parle, continue l'équitation, c'est ça?
Oui,
c'est ça. T'as tordu le cou à une idée reçue, donc qui était que ce n'était pas un sport, que c'était un loisir. Peut-être on va tordre le cou peut-être à une autre idée reçue. Généralement les gens imaginent que l'équitation c'est un sport qui coûte cher en termes d'équipement. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est, ou c'est quelque chose au contraire qui peut être assez accessible à tous? Parce que peut-être des gens n'y vont pas parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux.
Eh bien c'est vrai que c'est un coût l'équitation. Mais c'est accessible pour tout le monde. Mais ouais, après, il y a des équipements que ça peut freiner certains cavaliers.
C'est quoi, en gros, les équipements, les choses que, si je vais à l'équitation, là, par exemple, habillé comme je suis habillé aujourd'hui, peut-être que je ne peux pas y aller. Qu'est-ce qu'il faut que je prévoie dans mon sac à dos? Qu'est-ce qu'il faut que j'emmène, en gros? L'indispensable.
Des bottes, une bombe et un pantalon adapté. Après ça c'est pour le début.
Et en cours, en tout cas, tu nous rassures, dans n'importe quel club d'équitation, même si on est novice, qu'on n'a jamais eu de relation privilégiée avec les animaux dans le cadre d'un centre équestre, on sera bien reçu si on veut découvrir ce sport.
Oui, parce que oui, tout s'apprend.
Et il y a des métiers peut-être autour de l'équitation d'ailleurs, il y a peut-être aussi des voies professionnelles à découvrir. Je ne sais pas quel métier il y a autour de l'équitation, mais j'imagine qu'il y a des soigneurs pour chevaux, peut-être à certains niveaux professionnels.
Oui, on peut être palefrenier-soigneur, on peut être dentiste pour chevaux, on peut être ostéopathe pour chevaux, on peut être monitrice d'équitation, cavalière professionnelle, enfin plein de choses.
Merci beaucoup Tina pour cette petite mise au point sur l'équitation, de nous avoir fait en tout cas découvrir cette pratique sportive. On va rester dans les loisirs sportifs et on est rejoint par Mathéo qui va nous parler d'un autre sport, car c'est un sport, et oui, la pêche.
Effectivement.
Puisqu'on parle de plus en plus de pêche sportive.
Oui, tout à fait.
Mathéo, je voulais savoir, est-ce que toi, c'est la pêche sportive que tu pratiques?
Non, la pêche opposée.
Alors, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est la pêche que toi, tu pratiques, et la pêche sportive, est-ce qui les caractérise?
En gros, les cannes, elles sont posées, elles sont jetées dans l'eau, et toi, tu attends sur ton siège, ou tu dors, ou peu importe, quoi.
Donc là, on est plutôt dans quelque chose qui relève de la détente.
Ouais, voilà.
C'est quelque chose que toi-même, donc, tu pratiques?
Ouais.
Tu pratiques depuis longtemps?
Non, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans.
Et c'est venu comment? T'as découvert ça comment?
Par mon père. Donc du coup, j'ai suivi.
Et ils pêchent je sais qu'il y a aussi plusieurs types. On classe aussi les pêches selon les types d'eau. Il y a les eaux vives. Toi, tu pêches plutôt en étang, je crois, c'est ça?
Ouais, en étang, tout à fait.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire le plus de touches possible et de relâcher les poissons. Comment ça se passe?
Faire les plus gros et les relâcher.
Donc les plus gros, donc on est sur quel type de poissons?
Des carpes.
Carpes, il y a d'autres poissons déjà que tu as?
Des tanches et des brèmes.
Alors quand on parle de gros, on parle de poissons qui font quel poids et quelle taille à peu près?
Ça varie entre 10 et 20 kilos.
10-20 kilos, c'est un poisson qu'on peut pêcher tout seul, individuellement, il faut être aidé?
Ça se fait tout seul quand on y arrive bien.
Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir un matériel adapté?
Ouais, tout à fait.
Et ça, c'est pareil, comme on demandait tout à l'heure à Tina pour l'équitation. Est-ce qu'en termes de matériel, quelque chose de coûteux, enfin, qu'est-ce qu'il faut? Le B.A.B.A., c'est quoi l'équipement?
Il y a du matériel qui coûte cher, mais qui en vaut le coup. Et pour commencer, c'est mieux de prendre du matériel de base. Donc moi, pour le matériel que j'ai investi presque 5 000 euros. et j'ai encore d'autres achats à faire. Et après, au matériel de base, ça tourne dans les 400 euros.
Ok, parce que là, en plus, toi, tu participes à des concours, j'imagine.
Pas encore.
Parce que après, si tu vas dans des concours, pareil, c'est classé. On est classé comment? En fonction de notre catégorie d'âge ou du type de prise du matériel qu'on a? Comment ça se passe?
Non, je sais pas. Il n'y a rien de tout ça. Tout le monde peut y participer. C'est celui qui sort le plus de cartes qui va gagner les plus gros lots.
Et on va rappeler aussi qu'avant d'aller dans un étang pour pêcher, il faut une licence, il faut une carte de pêche. Je crois savoir que quand on est mineur, quoi, quand on est jeune, il y a des possibilités. Je crois que la carte est moins chère, voire même gratuite, ouais. Je ne sais plus.
En dessous de 12 ans, elle est gratuite. Après, elle est à 15 euros. À 16 ans, elle est à 22 euros. Et quand tu es majeur, elle est à 105 euros.
Mais par contre, on pêche après où on veut, ouais. Et ce qu'on veut. Rappelez aussi qu'il faut une carte de pêche, parce que si on pêche en dehors de ça, on est un braconnier en fait.
Ouais, c'est ça un peu.
Donc merci aussi de nous avoir fait découvrir ce loisir, la pêche qui est accessible aussi à tous, y compris aux plus jeunes.
Bonjour, je m'appelle Adriano, vous écoutez Radio Campus Tours. Nous sommes actuellement à l'AFPA de Tours dans la promo 16-18, je suis accompagné de Younis.
Bonjour.
Mon invité a 16 ans, il est actuellement à l'AFPA et c'est notre première fois à la radio.
Tout comme toi d'ailleurs.
Oui. Nous allons parler des jeux vidéo, plus particulièrement GTA V. Donc Younis, je te laisse présenter le jeu.
Oui, alors GTA V est un jeu d'action qui se déroule à Los Santos ou à Los Angeles. Los Santos est une ville fictive dans GTA V qui est inspirée de Los Angeles. C'est un jeu pays 18, c'est-à-dire déconseillé au moins de 18 ans, car il y a des scènes de vandalisme, de drogue, de vol, etc. On incarne trois personnages, Franklin qui est un gangster, Michael un père de famille, Trevor un psychopathe. C'est un jeu à monde ouvert, c'est-à-dire qu'on peut se balader librement dans la map. Ce jeu se joue sur toutes les plateformes, PS4, PS5, PS3, PC, Xbox. C'est un jeu payant qui peut se jouer en ligne.
C'est ainsi que s'achève cette interview. Merci de nous avoir écoutés. C'était Younis et Adriano. Et à très bientôt sur Radio Campus Tours.